Alors nous retrouvons à présent, comme chaque mois, le médiateur de Radio France, Bruno Denas. Bonjour.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Alors est-ce que nos dernières enquêtes ont suscité des réactions ou des questions particulières, Bruno ?
Eh bien, il fallait sans douter, votre enquête sur les hôpitaux au bord de la crise de nerfs a beaucoup intéressé les auditeurs. Il faut dire que nous sommes ou serons tous un jour concernés par une prise en charge dans un hôpital. Beaucoup de témoignages de personnel de santé ou de patients comme Frédéric. On n'est pas loin de la maltraitance dans l'hôpital où je me rends 5 jours toutes les 4 semaines pour un traitement. Ou Michel, j'ai passé 3 mois dans plusieurs hôpitaux, mes séjours ont été des cauchemars. Je confirme que le bien-être et la guérison des malades ne sont pas la priorité de la direction des établissements. Des médecins et des infirmières nous ont écrit également pour nous dire que le management des hôpitaux était vraiment catastrophique, quand d'autres affirment que tout cela vient d'un manque d'anticipation de la médecine ambulatoire et du virage numérique du système de santé.
Voilà donc pour toutes ces réactions sur l'hôpital. Bruno, une question cette fois sur un sujet qui a visiblement marqué les auditeurs.
Oui Benoît, et ça concerne évidemment un autre sujet auquel nous sommes tous un jour confrontés, les obsèques d'un proche. Philippe Reltier a enquêté sur les arnaques et les dérives de certains professionnels. Vous avez principalement évoqué les 3 plus grosses sociétés de pompes funèbres, nous écrit Nathalie, mais vous n'avez pas parlé des pompes funèbres municipales comme celle de Paris. Offrent-elles les mêmes services ? Sont-elles plus abordables ? Vous demande-t-elle.
Philippe, je vous laisse répondre.
Eh bien, dans cet univers impitoyable de la concurrence, effectivement, il y a aussi les services funéraires des grandes villes. À Paris, c'est une société d'économie mixte qui gère les cimetières et fait commerce de cercueils et de monuments en granit. La plupart des grands crématoriums, il y en a 200 en France, sont gérés par le privé. À Paris, la ville garde la main sur 2 crématoriums et des cimetières intramuros comme le Père Lachaise. 11 adjoints au maire ou conseillers administrent la société. C'est la ville de Paris qui fixe les prix. Les questions d'éthique sont aussi de son ressort. Sur le site dédié, on s'engage à respecter vos convictions, religions et croyances. Donc c'est vrai, depuis la fin du monopole communal en 1993, on assiste à une mutation des régies municipales en sociétés commerciales, en concurrence avec les grands groupes de pompes funèbres.
Une autre question là-dessus, Bruno ?
Oui, Pascal nous signale un autre scandale de l'industrie funéraire, le boycott des cercueils en cellulose, appelé plus généralement cercueils en carton. Évidemment, moins cher et particulièrement indiqué, nous dit-il, pour la crémation. Mais poursuit Pascal, les 3 poids lourds du marché français refusent de les proposer. Est-ce une autre dérive de ce marché assez fermé ?
Alors, effectivement, une association famille rurale que j'ai consultée pendant l'enquête me l'a fait remarquer. Le carton produit de l'économie circulaire, c'est plus écologique que couper des forêts. Et ça devrait mettre le cercueil au prix de 400 euros. Mais c'est vrai, on n'en voit pas en magasin. Alors, après, je ne peux pas prouver qu'il y a volonté délibérée de ne pas les mettre sur le marché. On m'a dit aussi qu'il était assez facile d'aller acheter son cercueil en carton en Suisse. Mais à quoi bon si les crématoriums les refusent sous prétexte qu'ils polluent ? De nouvelles normes de pollution viennent d'entrer en vigueur et on a fait des essais de brûlage tout récemment au Père Lachaise. Paradoxalement, le cercueil en bois brûle plus vite que le carton en crématorium, ce qui permet des cérémonies moins longues et moins coûteuses pour les opérateurs. C'est peut-être ça la vraie raison de leur réticence.
Voilà pour notre enquête sur le marché de la mort. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur d'autres enquêtes ?
Oui, l'enquête de Laetitia Chérel sur Macron et les catholiques. Plusieurs auditeurs estiment qu'il ne s'agit pas d'une véritable enquête, mais plutôt d'un dossier politique qui n'a rien de scandaleux.
Alors je vais laisser Laetitia répondre, mais juste un mot quand même, pour dire qu'à Secret d'Info et à la cellule investigation, par principe, on ne s'interdit aucun sujet, aucun domaine particulier. La promesse de l'émission, c'est de révéler des informations, bien sûr, mais aussi d'éclairer ou de décrypter avec parfois des formes qui peuvent être un peu différentes, comme on l'a fait par exemple pour Lafarge en Syrie ou les soupçons de financement politique dans l'affaire libyenne. Donc dans cette enquête-là, oui, il s'agissait clairement d'une émission un peu différente des autres dans la forme, mais sur le fond, l'idée était bien d'aller au-delà de la petite phrase d'Emmanuel Macron reprise par tous les médias, vous savez, le lien selon lui abîmé et qu'il faudrait réparer entre l'Église et l'État. Pour le reste, je laisse répondre Laetitia Chérel.
Alors effectivement, Benoît Colombat le disait, des petites phrases qui ont surpris dans ce discours, il y en avait beaucoup, pas seulement celle sur le lien abîmé entre l'Église et l'État. Et pour suivre les affaires de religion depuis plusieurs années, j'ai moi-même trouvé que ce discours était plutôt hors norme à bien des égards. Par exemple, quand le chef de l'État dit « un président qui se désintéresserait de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir », ça peut étonner, ou même « la France a été fortifiée par l'engagement des catholiques », les mots sont très forts, donc on a voulu montrer un peu le dessous des cartes de ce discours. Pourquoi le chef de l'État a employé le vocabulaire des catholiques? Par exemple, le droit à la vie de l'enfant, ça c'est un terme utilisé par les anti-avortements. C'est aussi une façon de parler à l'oreille des anti-PMA, de la Manif pour tous, qui se prépare à descendre dans la rue si la PMA, la procréation médicalement assistée, était ouverte aux couples de femmes, comme l'a promis Emmanuel Macron. Voilà, donc on a aussi révélé des faits, comme par exemple, qu'est-ce qui est à l'origine de la venue d'Emmanuel Macron au Bernardin? Alors les évêques de France disent, on l'a invité parce qu'on pensait naturel de l'inviter. Ben, en fait, non. Ça, c'est la version officielle. Nous, on a appris que cette invitation, elle a été faite parce qu'il y a plusieurs choses qui ont vraiment agacé l'entourage d'Emmanuel Macron pendant l'entre-deux tours. C'est d'abord le fait que l'Église se soit abstenue de prendre position pour lui face à Marine Le Pen. Et puis la deuxième chose, c'est une petite phrase du pape, toujours pendant l'entre-deux tours, qui a dit ne pas connaître Emmanuel Macron et par contre connaître Marine Le Pen comme étant la représentante de la droite. Forte. Voilà.
Merci Laetitia Chérel, Philippe Reltien et merci Bruno Denas. On vous retrouve évidemment dans un mois et en attendant, continuez à envoyer vos commentaires et vos questions sur le site du médiateur, mediateur.radiofrance.fr. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous allons vous révéler l'envers du décor de la vidéosurveillance.